C'est une bénédiction pour moi d'être parmi vous. Vraiment, c'est une joie et je suis heureux d'être là. Alors, notre frère a parlé du fait que j'étais à Antibes l'autre jour, mais l'année passée, ce n'était pas facile quand ils m'ont invité à Antibes. Ils m'ont dit, est-ce que tu as l'habitude de présider des enterrements le dimanche matin? Alors, c'était surprenant. Ils ne savaient pas que j'étais là. Quand ils ont découvert que j'étais dans le coin, ils m'ont téléphoné, on a un problème, un enterrement. Et ils m'ont dit, le dimanche matin, peut-être pas. Ils m'ont dit, alors, l'enterrement aura lieu le samedi, mais le dimanche, tout le monde de la famille va revenir au culte pour honorer celui qui est parti, donc tous les inconvertis de la famille. Est-ce que tu peux venir apporter un message pour l'enterrement, un message de joie dans le Seigneur, un message de retour du Seigneur en même temps? Alors, c'était ma première visite à Antibes depuis pas mal d'années, mais j'ai eu beaucoup de joie là. Mais ce que Daniel ne sait pas, c'est qu'il y a un tout autre thème où j'étais peut-être pas obligé, mais obligé par l'Esprit à prendre ce thème. Vous n'imaginez pas de quoi il s'agit, le thème du terrorisme. Alors, presque toutes les réunions que j'ai faites, c'était pas le même message. Chaque fois, il y avait un message nouveau, mais au sujet du terrorisme. Il y a quelques amis chrétiens qui sont médecins, qui ont loué une grande salle d'une église catholique sur Nice. Disons, il y aura peut-être quelques-uns qui vont venir. Ils ont donné des invitations, pensant qu'il y aura peut-être une quarantaine de personnes. Mais il y avait tellement de monde, ils ne savaient pas où mettre le monde. Et puis, il y a des gens qui se sont convertis suite à ce message, la Bible et le terrorisme. Alors, pendant la semaine, j'ai dit, Seigneur, mais tu m'as demandé de parler sur ce sujet 8 fois de suite. Est-ce que c'est toujours le même sujet dimanche prochain? Et là, le Seigneur m'a dit, non, il y a tout autre chose. Je vais peut-être vous faire rire un tout petit peu, mais vous savez, les pentecôtistes sont spécialistes au sujet de la personne du Saint-Esprit. Ça, vous le savez probablement. Hein? Les évangéliques sont spécialistes au sujet de la personne de Jésus-Christ. Et puis, il y a quelqu'un qui manque. Qu'est-ce qui manque dans cela? C'est Dieu, le Père. Pas seulement Dieu, mais Dieu, le Père. Et j'ose dire, juste entre nous, que peut-être ce sont nos amis catholiques qui sont plus spécialistes dans le domaine de Dieu, le Père. D'ailleurs, j'ai un ami qui s'est converti parce qu'on est allé à, j'ose pas trop vous dire où, mais on nous a donné un don pour aller au Club Méditerranée pour faire du ski il y a quelques années. Je faisais du ski jusqu'à il y a 2 ans, maintenant j'en fais plus pour l'instant. Et parce qu'on est allé là, on a rencontré un homme de la nobilité et il a dit à Hélène qu'il skiait mieux que moi parce qu'elle est née sur ses skis, moi je suis pas né sur mes skis, hein, mais... Et il a dit, mais ton mari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Hélène a dit, mais il faudrait peut-être lui demander. Mais je l'ai regardé toute la semaine. Je l'ai regardé vivre, j'ai parlé un petit peu avec lui, je l'ai écouté parler. Mais ce que je pense qu'il est, c'est pas possible. Hélène a dit, je pense qu'il est quoi? Mais je pense qu'il est, c'est un prêtre ouvrier, non? Qui s'est marié. Alors je suis prêtre, j'espère que vous l'êtes si vous connaissez Jésus-Christ. Ouvrier, je le suis toujours, mais... c'est pas tout à fait la même chose. Alors ce matin, j'ai vraiment à cœur de parler du thème de Dieu le Père. Et c'était confirmé parce qu'il y a une feuille de calendrier qui est tombée cette semaine dans mes mains, et je l'ai lue, et je vous le lis. Voyez de quel amour le Père nous a fait don pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, point, et nous le sommes. Je le répète, hein? Je le répète parce que c'est important. Voyez de quel amour le Père nous a fait don pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est fantastique cela. Alors comme base de ce que j'aimerais partager avec vous, j'aimerais vous lire un passage que personne ici connaît. Je dis ça en riant parce que je suis sûr que vous l'avez lu au moins 100 de fois. S'il y en a qui l'ont lu 200 fois, vous nous direz en sortant. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, et à partir du verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partageait son bien. Peu de jours après, le plus jeune le jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut dépensé, une grande famine survint sur ce pays. Il commençait à manquer de tout pour manger. Il se lia avec les habitants du pays qui l'envoyaient dans les champs pour faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes. Je ne sais pas si vous mangez des caroubes au petit déjeuner ou pas. Mais moi, j'en ai pas mangé, mais on me dit que c'est un goût qui est très sucré et très répugnant en même temps. Hein? Alors, je ne vous le recommande pas, même si vous voyez des affiches chez Carrefour ou je ne sais pas qui disent que c'est la dernière découverte et il faut manger 5 caroubes par jour pour pouvoir vivre. Vous connaissez la musique là. Alors, n'en mangez pas. Hein? Rentrez en lui-même. Et il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel, et contre toi, et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu la vie, il était perdu, et il l'a retrouvé, et on l'a retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Pourquoi est-ce que ce thème m'intéresse? Parce que je crois qu'il y a un manque dans beaucoup, beaucoup de vies chrétiennes de la personne du Père. Peut-être la personne du Père terrestre, j'en sais rien. Je peux raconter une histoire contre moi qui va droit au cœur. Notre petite famille est dispersée un peu partout. Nous avons des parties au Québec, des parties dans le Midi, à Nice particulièrement, des parties en Suisse et une petite partie en Angleterre. Et ma fille habite à la frontière suisse où elle est institutrice spécialisée. C'est pour ça qu'on est un peu dans le coin là. Et un jour, j'ai dit à Hélène, mais on m'invite à faire une série de réunions dans une ville, dans la ville où habite notre fille. Je vais y aller pour faire des réunions. Je passerai du temps avec Nathania, notre fille. Alors, c'est arrivé cela. Et puis, à la fin de la semaine, je retourne à la maison. Hélène m'a dit, mais qu'est-ce que t'a raconté notre fille? Oh, j'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai pas pu lui dire ce qu'elle m'avait raconté parce que je me souvenais plus tellement bien. Elle téléphone à Nathania, elle dit, mais Et papa, tu l'as vu? Elle dit, maman, je l'ai aperçu sur le quai de la gare. Il avait des réunions, des visites, des consultations. Je l'ai aperçu sur le quai de la gare. Un manque de père, là. Hein? Un manque de père. Alors moi, j'ai été repris dans ma conscience. Et je dis, Seigneur, si j'ai une autre invitation pour faire des réunions dans le coin, j'irai cette fois-ci et je donnerai du temps à ma fille. Alors, ça m'est tombé comme ça que j'avais une invitation de présider une grande rencontre entre les églises. C'était le jeudi de l'Ascension, je crois. Et j'y suis allé. Et après, Hélène a téléphoné à notre fille. Elle a dit, Nathanie, chérie, est-ce que tu as vu papa? Ah, cette fois-ci, je l'ai vu. Cette fois-ci, je l'ai vu. Alors, j'aimerais vous demander, quelle est votre relation avec Dieu le Père? Est-ce que vous avez une relation personnelle, réelle, vivante, une relation qui transforme votre manière de parler avec les uns et avec les autres? C'est en Tunisie que j'ai donné ce message que je vais partager ce matin. Je n'ai pas souvent l'habitude de répéter un message que j'ai donné quelque part. Je parle sur ce thème dans 5 ou 6 réunions, mais le message de ce matin. Et je demandais au Seigneur ce que je devais dire et à qui je devais parler. Et je me promène dans les rues, la rue principale, l'avenue Bourguiba, et je m'arrête à la grande librairie là, et puis je trouve un livre par un de mes voisins que vous connaissez peut-être, Marcel Ruffaut. Et le livre, c'est intéressant. Chaque homme, chaque femme a besoin d'un père. Je suis allé vite acheter le bouquin. Et ça m'a parlé. Et j'ai ouvert ma Bible. Et j'ai vu que chaque homme, chaque personne a besoin d'un père. Mes amis, c'est diabolique ce qui se passe actuellement dans notre pays. J'utilise le mot avec soin. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de la société. Le fait que la famille est en train de désintégrer, et de désintégrer presque officiellement, que la famille ne compte plus, que les pères ne comptent plus. Le père est un élément indispensable, mais nous avons besoin d'un vrai père pour nous l'apprendre. Et le seul vrai père, c'est celui dont nous parlons ce matin. Bien-aimé, comme le verset que je vous ai lu ensemble, voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés, nous, enfants, enfants de Dieu. Tellement important d'avoir cette relation. Alors l'histoire qu'on a lue ce matin, c'est une pièce de littérature extraordinaire. L'analyse que Jésus-Christ fait de la situation, dont tous les détails s'appliquent à beaucoup de familles encore aujourd'hui. Vous voyez comment il y a ce fils, et quelle est la première remarque qu'il fait ? Donne-moi, donne-moi. Vous avez eu ça de la part de vos enfants ? Donne-moi. Si j'en parle avec le cœur un peu lourd, c'est que j'ai un fils que j'aime énormément, mais qui est loin du Seigneur. Qui est loin du Seigneur. Qui ne voulait plus rien à faire avec nous à cause de mon ministère. Il disait, papa, pourquoi tu perds ta vie? Tu enseignes à la fac, tu aurais pu continuer et rester être prof de faculté comme cela. Et tu perds ta vie. Il ne comprenait pas. Il était toujours très, très contre nous. Moi, j'ai prié avec Hélène. On a prié, on a prié, on a prié. On a versé des larmes dans la prière pour que la mauvaise image du Père céleste qu'on avait donnée, la mauvaise image que nous avions donnée, soit corrigée par l'action du Saint-Esprit et que Laurent, notre fils, puisse voir le Père autrement, puisse voir le Père autrement. Et j'ai passé du temps. Il n'est pas encore totalement revenu au Seigneur. Il est venu avec moi en Afrique dernièrement, avec son neveu, son cousin, mon neveu, qui est médecin à Nice, dans l'hôpital que nous avons à Cotonou, un hôpital de l'eau vive, qui fonctionne bien là. Il est venu. Il a dit, papa, j'étais bouleversé par cet hôpital. Tellement d'amour là. Les gens s'aiment. Les gens s'aiment. Et le chef infirmier, Brice, il est extraordinaire cet homme. La manière dans laquelle il parle aux malades, il parle aux individus. Bien-aimé, le Père parle avec tact, avec douceur, avec une intuition extraordinaire. Et nous, moi et vous, si souvent on rentre dans le travail du Seigneur comme un taureau dans un magasin de porcelaine, vous connaissez cette description-là. Le Père a une telle douceur, telle disposition de cœur envers les uns et vers les autres. Et on a continué de prier pour Laurent. Et la première étape de lumière, c'était quand on grimpait, juste avant que j'aie mon accident, il y a 2 ans, on grimpait dans le Jourin. Et à un moment donné, Laurent s'arrête, il me dit, « Papa, tu sais, tu es mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. » Et je crois que quand on n'a pas un père, il y a un désordre dans la vie. Les hommes et les femmes qui n'ont pas vécu une relation de père ont un vide dans leur cœur. Alors, bien aimé, c'est la même chose dans le monde. C'est la même chose avec les gens qui sont autour de nous. Je le trouve constamment. Depuis que je suis là, c'est extraordinaire le nombre de situations dans lesquelles je peux me trouver. Et devenir un père pour quelqu'un. Je ne vais pas vous citer de nom, mais j'ai eu un seul petit problème de voiture depuis que je suis là. Paraît-il que j'ai rayé une autre voiture. Et la personne qui était propriétaire de la voiture attendait que j'arrive. Et mince, quand j'arrive, je découvre que c'est l'infirmière qui me pique toutes les 2 semaines, qui est maghrébine. Et on avait commencé à avoir une bonne relation ensemble. Voilà, j'ai tout gâché. Paraît-il que j'ai rié sa voiture. J'en suis pas sûr, mais elle était sûre. Alors, j'ai signé les papiers pour ne pas poser de problème là. Et puis, cette semaine, je l'ai revue. Et elle s'est mise entre mes bras, on s'est embrassé. C'est formidable. L'amour du Père, c'est cet amour dont le monde a terriblement besoin. Pardonne-moi, donne-moi, donne-moi. Seigneur, je veux être à toi. Je veux connaître le Père, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Père a un amour extraordinaire. Il a des projets pour nous. Et le seul Père parfait est celui qui est au ciel. Le seul Père parfait. Comme un homme que sa mère console. Comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous console, dit le Seigneur dans Ésaïe, chapitre 66. Un autre passage dans le même livre dit que Dieu est un Père au cœur de mère. Bien-aimés, est-ce que nous avons cette relation intime avec le Père céleste? Ça nous permettrait d'avoir une relation normale avec nos enfants, avec ceux qui sont autour de nous? Moi, j'ai un peu locomotive dans ma vie. Ma femme est beaucoup plus contemplative, un peu slave et un peu française et un peu suisse, tout mélangé ensemble. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui ne bouge pas vite, et quand elle bouge, elle sait ce qu'elle veut faire et ce qu'elle veut dire. J'ai dû comprendre que les besoins de ma femme ne sont pas les mêmes que les miens. Par hasard, je suis homme et elle est femme, vous voyez, un truc un peu différent. Hein. Et puis elle a des besoins qui sont différents des miens. Différent des miens. Alors on a besoin d'un père là, dans cette situation. Elle a besoin que j'agisse avec elle comme un pasteur. Je dis quelquefois que mon église a 5 personnes qui sont dans mon église principale, les 5 membres de notre famille intime. Et là, j'ai un ministère pastoral qui est important, d'être berger avec eux. Notre fille, c'est une des 5 femmes que j'aime le plus dans la vie. Et quand je vois notre fille Nathaniel, je la prends entre mes bras, chérie, en trésor, je suis heureux de te voir. Et je pense que c'est ça qui lui a donné une stabilité dans sa vie familiale, hein, dans sa vie familiale, avec son mari. Parce qu'elle avait un père qui était stable dans son amour à son égard. Et Dieu est stable dans l'amour qu'il a pour nous. Dieu a un amour formidable, hein. Et il veut intervenir dans toutes sortes de situations. Moi-même, il est dit dans un chronique 17 et 13, « Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. » C'est pas croyable, ça? Nous avons le privilège d'être fils et filles du Père, fils et filles du Père. Quand je suis en difficulté à Nice, je cite le nom de jeune fille de ma belle-mère. Et ça ouvre toutes les portes parce que c'est une famille qui était très connue à Nice. Et dernièrement, on a eu des gens qui se sont promenés, je ne parle pas de quelqu'un qui est ici ce matin, avec un nom sur leur front, non? Charlie, j'appartiens. Moi, j'appartiens au Père Céleste, moi. J'appartiens au Père Céleste. Et je voudrais que ça se voit dans toute la situation de notre vie, que notre christianisme ne soit pas quelque chose de théorique, de fabriqué, de vieux, mais quelque chose de vivant. Je ne sais pas si je vous ai raconté la dernière fois où j'étais là. Moi, je prie toujours quand je prends le train ou l'avion, dis « Seigneur, mets-moi à côté de quelqu'un auquel je dois parler. » Et il y a quelque temps, il y a 1 an et demi, 2 ans environ, j'avais prié pour cela. Et je me suis trouvé à côté de 2 hommes. Alors je dis, Seigneur, où est-ce que je commence? Il y en avait un qui était près de l'houblon, moi j'étais à l'allée, et celui à gauche. Alors je regarde et je me dis, Seigneur, comment est-ce que j'ai commencé à pouvoir lui parler? Je vois le titre de son bouquin, Le chrétien et la science. Tiens, je dis, flûte, il doit être chrétien celui-là. Ce n'est pas ça que je t'avais demandé, Seigneur. Et je commence à parler de ça, puis il me dit, mais on se connaît très bien, je suis souvent dans les réunions que vous avez faites, et c'est un professeur chrétien de l'université de Lausanne. Alors il s'est levé pour aller au petit coin, Et puis, formidable, ça me donnait l'occasion de voir l'autre. J'ai dit, est-ce que vous avez vu le livre que le monsieur était en train de lire? Et il dit, non, je n'ai pas lu. C'était la science et les chrétiens. Il me dit, ça, le christianisme, il se lève dans l'avion, il dit, le christianisme, c'était un maghrébin, le christianisme, c'est mort, c'est pas la peine d'en parler. Mais Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Il a dit ça devant tout le monde, les 150 personnes dans l'avion. Ça a résonné dans l'avion. Jésus-Christ est vivant. Alors, bien-aimés, est-ce que c'est ça qui transpose dans nos vies, dans notre manière d'être? Nous avons un Père derrière, un Père derrière. Je suis comme Daniel, nous vivons par la foi. Je ne sais pas quelle est la prochaine étape, quelle est la prochaine chose que le Seigneur va ouvrir pour moi, comment il va intervenir. Et c'est extraordinaire le nombre de miracles qu'on a eu depuis qu'on est là. Depuis qu'on est là, le miracle qu'on a reçu, ce qu'il fallait pour payer la location du petit appartement. Même le fait qu'on a reçu l'appartement de la part d'une chrétienne. Une chrétienne dans les agences immobilières. Vous voyez ça? C'est pas souvent qu'il y a ça. Hein? Et quand elle a appris qu'on cherchait l'appartement, elle a dit, je crois qu'il y a un de mes clients qui ne loue pas normalement, qui, si j'ai fait pression, elle ouvrira l'appartement. Et tout à fait par hasard, hein, par hasard. C'était dans le même immeuble que l'année passée. Et elle en avait demandé ça, elle a dit, chérie, j'aimerais être dans le même immeuble que l'année passée parce que je connais les magasins du quartier et tout cela. Alors quand Dieu fait des cadeaux, il fait de beaux cadeaux. Mais il veut qu'on soit ses enfants. Il veut qu'on vive une relation avec lui. La vie chrétienne est une vie relationnelle. C'est pas pour rien que dans nos mails, mon fils, Hélène, moi, la secrétaire de mon fils, on a le mot relationnel. C'est un mot important, important. Le chrétien est quelqu'un de relationnel, quelqu'un de relationnel. Je fréquente souvent une assemblée très intéressante parce qu'ils ont un escalier monumental pour descendre l'assemblée. Et quand vous descendez, vous voyez les chrétiens qui sont là. Il y a un groupe de chrétiens par là, un groupe de chrétiens par là, un groupe de chrétiens par là, un groupe de chrétiens par là. Et les étrangers, les inconvertis qui viennent. Souvent, c'est comme ça. Mais avec Hélène, on a compris que notre ministère, c'est de ne pas les laisser faire ça. Leur dire, mais qu'est-ce que vous faites à midi? Où est-ce que vous allez manger? On ne vous connaît pas, on aimerait bien vous connaître. Et c'est comme cela que... Il y a un gars qui est arrivé un dimanche matin au culte et j'étais placé où je pouvais voir les gens arriver. C'est bien cela, parce que comme ça on peut être utile. J'aime pas me mettre devant. Et ce gars, j'ai vu arriver, il portait un chapeau pour venir au culte. Il y en a ce matin des hommes qui ont porté un chapeau. Mais il a mené son vélo dans la salle de culte aussi. Hein. Alors là, j'ai dit, mais je vois d'où il vient ce gars-là. Je ne sais pas si vous êtes détective ou pas. Hein. J'ai dit, celui-là, c'est un malgache. Parce que je connais bien Madagascar. C'est typique des mœurs de Madagascar. Alors, à la fin du culte, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais je suis au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. Je suis là de la part du gouvernement malgache. Et je voulais assister à une réunion chrétienne dimanche, donc j'ai trouvé ça sur Google. J'ai dit, alors, tu es chrétien? Oui, mais bien sûr que je suis chrétien, il me dit. Toute notre famille, on est chrétien. On a toujours été chrétien. Il dit, mais c'est intéressant, hein? On va aller manger ensemble, tu vas m'expliquer un peu plus. Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Mais on a toujours été chrétien, les grands-parents sont chrétiens et nous, on est chrétiens. Mais dans la Bible, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. J'aime beaucoup ce mot « devenir ». De devenir enfant de Dieu. C'est une procédure. C'est quelque chose qui se passe. Les personnes que vous rencontrez, vous et moi, dans nos contacts quotidiens, est-ce que vous pouvez imaginer ces personnes sont en train de devenir chrétiens? Non? Alors ils ne deviendront jamais chrétiens. Si ce n'est pas la foi que le Seigneur peut travailler dans leur vie, il y a deux de nos voisins qui sont officier dans la police suisse, parce qu'on habite près de la frontière. Et on a commencé à avoir un contact avec eux. On a mangé la fondue ensemble. C'est une bonne évangélisation, c'est la, l'évangélisation fondue. Alors on a mangé la fondue ensemble avec eux et toutes sortes de choses de similaires. On est allé aux fêtes de Genève et on doit y aller cette année. Ils nous ont invités, disant, on paye votre billet, vous venez avec nous. Et petit à petit, dans l'amitié, on a pu parler de choses en plus. Un beau jour, la femme m'a dit, mais et elle n'avait jamais parlé d'être chrétien. J'avais enlevé le poisson de derrière ma voiture pour que les gens n'apprennent pas par cela que j'étais chrétien. Et à nouveau maintenant, parce qu'ils me connaissent, les gens de là où on habite. Mais elle a dit, il paraît que vous allez prêcher dans une église à Genève dimanche prochain. J'ai appris ça, qu'elle me dit. Elle dit, oui, mais est-ce que je peux venir? Allons. Je saute un peu plus loin. Elle est venue dernièrement à quelque chose d'autre. Et Hélène lui a posé la question, mais Patricia, où est-ce que tu en es maintenant avec le Seigneur? Elle répond, mais Hélène, c'est fait. Je suis au Seigneur maintenant. Je suis au Seigneur maintenant. Hélène a pu parler et prier avec elle. Bien-aimée, le Père est là pour agir à travers notre vie, dans ce monde qui est tellement, quel mot que je dois dire, un monde de solitaire, c'est pas vrai, solitaire, pas vrai. Il y a tellement de gens qui sont seuls, qui sont blessés, qui n'ont personne pour les écouter, personne pour les comprendre, personne, personne. C'est formidable d'aller en Afrique du Nord quand on a un bâton comme cela, parce que tout le monde se lève dans le train ou dans le tramway pour vous donner la place. En France, on ne fait plus, hein? On ne fait plus ça. On ne s'intéresse plus. Mais nous avons été sauvés afin de révéler le Père à ceux qui sont autour de nous. C'est le but de cela. Mais ce fils, je ne vais pas l'appeler prodige, j'appelle le père prodigue, parce qu'il prodiguait tellement d'argent et tout le reste. Mais le fils est trouvé dans ce pays lointain, il a tout essayé, il est allé au bout de ses ressources, comme c'est arrivé pour notre fils aîné, à un moment donné. Il est parti depuis longtemps, il a fait des examens, et il a ses diplômes et il a travaillé avec Médecins sans frontières et tout cela. Mais à l'époque, il était rien du tout, sauf la musique. C'était formidable la musique ce matin, mais ce n'était pas la même musique que Laurent avait. La musique, la drogue. Il est disparu dans la ville de Chicago. Je ne sais pas si vous connaissez bien Chicago. Moi, je suis allé une ou deux fois, mais je ne connais pas bien la ville. Je n'ai pas été mon fils. Mais j'étais invité par les Gédéons à apporter les messages au congrès international qui avait lieu à Québec. Ils m'ont invité parce qu'ils ont dit on veut un binational, un bilinguiste pour pouvoir parler cette fois-ci pour que tu prêches une fois en anglais, une fois en français. C'était pas facile, mais je l'ai fait. Et pendant que j'étais dans la chambre d'hôtel qu'ils avaient réservée, le téléphone sonne. Et c'est Laurent au téléphone. Papa, est-ce que je peux revenir à la maison? Papa, est-ce que je peux revenir à la maison? Mais j'aimerais vous dire, pour ceux d'entre vous, je suis sûr qu'il y en a parmi vous, ce matin, qui ont des fils ou des filles, qui sont loin du Seigneur, avec lesquels vous n'avez plus tellement de contact. Priez pour que les ponts soient établis de nouveau. Il ne faut jamais que ces ponts soient coupés. Les ponts avec Jésus n'ont jamais été coupés. Vous savez cela? Jamais été coupés. Si quelqu'un vient à moi, je le mettrai point dehors, dit Jésus. Les ponts avec le Père n'ont jamais été coupés de sa part. C'est extraordinaire, cela. Ah, nous ne laissons pas les ponts se couper avec nos enfants, avec nos parents, avec nos autres membres de notre famille. C'est vrai, les ponts ont été coupés. Bien-aimés, priez pour que le Seigneur vous donne de nouveau de pouvoir rétablir ces ponts. Parce qu'à un moment donné, les mêmes paroles vont venir que ces paroles de la part du Fils. Quand il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je dirai tout ce qui n'a pas été entre nous. Première chose, il faut prier pour qu'il se lève. Priez pour que ces personnes que vous connaissez se lèvent, fassent le pain avec le Seigneur. Et à un moment donné, oh, il faut que ça vienne de leur part. Mais quand il y a un Père qui aime, et quand vous reflétez la manière d'être de ce Père devant ces gens, ils ne vont pas avoir peur. Ils ne vont pas avoir peur d'en parler. Juste après mon accident, je me suis trouvé dans une ambulance qui devait me ramener depuis la Haute-Savoie à la maison au pays de Gex. Et puis une tempête de neige. J'étais un peu embêté parce que... Quelqu'un qui veut parler à quelqu'un, c'est ça? Voilà, c'est bien. Il y avait une tempête de neige. Et moi, j'étais embêté parce que je m'étais dit, je vais arriver à la maison beaucoup plus tard. Mais une fois qu'on commence à rouler, tout doucement, l'infirmière vient me voir, elle me dit, « Monsieur, j'aimerais vous poser une question, vous pourrez peut-être m'aider. Vous pourrez peut-être m'aider. Je ne sais pas pourquoi je vous la demande, je vous la pose, cette question, mais est-ce que vous avez un peu de temps pour me parler de ça ?» J'ai dit, « Mais c'est quoi votre question ?» Je dis, « Monsieur, peut-être ça vous gêne, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, » qu'il me dit. « Mais monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre la religion et la foi ?» Ça tombait bien, non? Vous pouvez m'expliquer la différence entre la religion et la foi? Depuis, on est devenu amis avec Benoît. Et Benoît, j'ai mangé avec lui, j'ai parlé avec lui, j'ai passé du temps avec lui. Il est dans le chemin, il n'est plus dans la région près de chez nous, mais ce n'est pas mon problème, le Saint-Esprit travaille partout. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je confesserai tout ce qui est entre nous. Quand il y a une cassure, quand il y a un péché avec l'abcès qui fermente entre nous et quelqu'un d'autre, de la famille, un enfant ou un parent, il faut que cet abcès soit vidé complètement, pas petit à petit, mais complètement, même si c'est petit à petit, mais pas rester au petit, complètement. Le Seigneur nous a pardonné pour que tous nos péchés soient enlevés, pour que tout soit confessé, pour qu'on commence à vivre une vie toute nouvelle. Si un homme est en Christ, une femme, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il a tout confessé. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, qui est une histoire que le Seigneur a donnée comme parabole, le Père l'attendait, le Père l'attendait. Et vous savez, bien aimé, l'autre personne avec laquelle vous avez peut-être un problème, si vous priez pour cette personne, son attitude va changer. Est-ce que j'ose dire, peut-être la vôtre va changer aussi? Vous suivez bien? Bon, c'est nous qui avons toujours raison. Levez la main tous ceux qui ont toujours raison, comme moi. Vous voyez? Et puis, on a besoin de changer. On a besoin que le Seigneur fasse un travail chez nous. Où est-ce que moi j'ai fait un faux pas? Où est-ce que moi j'ai blessé? Où est-ce que moi j'ai été le problème? Où est-ce que moi j'ai été la difficulté? Le Père l'attendait. Et dans l'histoire que nous lisons, il le regardait quand il a vu de loin. Il a couru pour le trouver. Il a mis ses bras autour de lui pour l'embrasser. Il était si heureux de le voir. Bien-aimé, il faudrait un peu plus de ça dans nos églises, dans nos assemblées. Est-ce qu'il y a un frère, une sœur de l'assemblée que vous ne connaissez pas vraiment? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment? Quelqu'un avec lequel vous n'avez jamais, mon frère Charles dirait, mais vous n'avez jamais joué à la pétanque avec lui, mais auquel que vous n'avez jamais bu un café avec lui, vous n'avez jamais invité à la maison, vous n'êtes jamais allé chez lui. C'est vrai? C'est vrai? Là, dans cette communauté où nous sommes, c'est une assemblée de frères comme la vôtre, c'est pas sur la liste officielle, mais c'est une église du même style. Et il y a du monde dans l'église où personne n'est allé faire une visite. Et moi, je me pointe. Je dis, est-ce que cette semaine, un jour, je pourrais prendre un café chez vous? Oh, cette semaine, on a tellement de choses, tellement de choses. Mais la semaine après, oui, ce sera un peu mieux. Je dis donc, dans 3 semaines, c'est d'accord? Dans 3 semaines, ça leur laisse le temps de réfléchir. Et puis, quand on y va, personne leur a fait cela. Un de mes ministères, quand je suis loin, c'est d'envoyer des cartes postales. J'envoie les cartes postales à tout le monde, surtout ceux qui sont un peu isolés, qui ne connaissent personne. Vous voyez un peu le style? C'est un ministère, cela. C'est un ministère de père envers les enfants. Et vous avez tous un ministère de ce genre. C'est pas parce que vous n'avez que 30 ans, aux 35 ans, vous n'avez pas encore 60 et quelques, et un peu plus que 60 comme moi, une vingtaine de plus, Ce n'est pas parce que vous êtes pas cela, mais chacun. Il y a un Père qui nous aime tellement, tellement. Le Père l'attendait et le Père le guettait. Il avait des projets pour lui. Et c'est ça qui est fantastique. Le Père céleste a des projets. Jérémie 29 et verset 11. Le Seigneur a des projets pour nous, les projets de bonheur et d'espérance. Vous savez ça? De bonheur et d'espérance. Il y a des chrétiens qui pensent que tous les projets que le Seigneur a pour eux, ce sont les projets de malchance, de découragement. Et ils portent un merveilleux tableau du Seigneur sur leur visage quand ils se promènent. Comment ça va? Vous, ça va bien? Je le fais aller. Vous connaissez ce style-là? Vous le faites aller? Hein? Moi, je ne dis jamais cela. Comment ça va? Je le dis de mieux en mieux. Bon, c'est vrai, ça va de mieux en mieux. Je suis presque arrivé au point de le bout de la course, je ne sais pas dans combien de temps. Mais le Seigneur est merveilleux et je découvre de plus en plus à son sujet. J'aimerais vous recommander cette semaine, prenez vos Bibles, ouvrez vos Bibles. Et ayez, je fais un peu de pub parce que c'est indispensable. Où est-ce que c'est parti, hein? Je m'approche. Voilà, mon stylo. Quatre couleurs. Il était dans ma poche tout à l'heure. Il est là, quelque part. Prenez, voilà, ça y est, ça vient. Chaque chrétien devrait avoir un stylo comme ça, hein, avec quatre couleurs. Et vous travaillez vos Bibles avec ça. Les versets où le Seigneur vous parle, et c'est un peu dur, mais soulignez-les en noir. Le Seigneur n'est pas choqué parce que tu dis, Seigneur, mais ce que tu demandes là, c'est beaucoup, hein. Seigneur, je suis un peu choqué par cela. Aide-moi. Le Seigneur comprend bien. C'est un Père. C'est un Père. Le Seigneur n'est pas là comme juge, mais comme Père. Et puis, vous avez le bleu. Le bleu, c'est fantastique. Le bleu, c'est l'espérance, c'est la prophétie, c'est ce qui va se passer demain. Moi, je ne lirai plus ce qui va se passer demain, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Hein. Je crois que ce qu'on lit dans la prophétie, on est en train de vivre ça devant nos yeux actuellement. Devant nos yeux actuellement. Combien de temps est-ce que nous avons pour la liberté? Vous savez combien de temps? Notre liberté est presque compromise déjà, hein, à cause de la religion nationale. Il y a une religion nationale maintenant. Quelle est notre devise nationale? Hein? Au lieu de liberté, c'est laïcité maintenant. Et c'est une religion, ça. C'est pas un mot juste philosophiquement, parce que la vraie laïcité, c'est de laisser la liberté à chacun. Laisser la liberté à chacun de s'exprimer. La liberté à chacun de choisir quelle foi il veut suivre. C'est pas parce que je suis chrétien que je vais obliger quelqu'un de se convertir, parce que c'est pas une œuvre de Dieu, ça. Le Seigneur dit qu'il veut, réconcilier les choses avec les personnes. Qui veut venir ensemble et parler. Et continuons. Nous avons le verre. Le verre, c'est quand nous avons un encouragement. Un encouragement, quelque chose que nous avons besoin de voir. Oh, j'aime bien que ma Bible soit comme ça. Moi, je travaille une Bible presque tous les ans, tous les deux ans. J'ai recommencé là. C'est pas beaucoup souligné encore, mais ça le sera. Je pourrai contrôler d'ici une année pour voir si ce n'est pas. Et puis le rouge. Le rouge, alors là, ce sont les bénédictions. J'en ai besoin. Et j'ouvre ma Bible et des bénédictions tombent du ciel. C'est pas croyable. Et ce qui est formidable, c'est que c'est juste ces bénédictions-là que j'ai besoin ce jour-là. Et non seulement moi j'ai besoin ce jour-là, mais les personnes que je vais rencontrer ont besoin ce jour-là. Moi je suis venu jusqu'à tout près de chez vous hier avec Hélène. On avait à passer une partie de la journée avec un couple qu'on ne connaissait pas bien. Mais on a vécu une journée bénie par ce couple et leurs enfants. C'était formidable. On a appris à les connaître, appris à partager les bénédictions du Seigneur avec vous. Je ne peux pas traiter tout ce que j'ai noté pour vous traiter, mais quand j'ai donné ce message le dimanche matin à Tunis, c'est là où Mourad est venu me trouver. Mourad, j'aimerais qu'on laisse les trois chaises libres un petit peu à la fin pour qu'on puisse voir ce qui est là-dessus, il y a une photo de mon ami Mourad. Mourad, c'est quelqu'un que j'ai rencontré un dimanche matin après le message au culte à Tunis, le message dans l'Église internationale en français. Il y a des églises tunisiennes maintenant, ça commence. Ne me demandez pas de vous dire trop de choses parce que je ne vous répondrai pas. Ce que je sais, je le garde et je prie, mais je l'imprime pas parce que c'est trop dangereux pour le moment. Il faut être très, très, très prudent. Mais Mourad était découragé, ce garçon. Il était footballeur. Fantastique, un footballeur. Vous aimez le football, vous êtes Paris Saint-Germain, vous êtes quoi, vous, hein? Et puis, Mourad, à peu près kiff-kiff comme cela, alors il jouait, mais un jour, il a rencontré son père, et son père a dit, mais j'ai vu ta mère. Oui, papa. Et je lui ai dit que je l'ai divorcée. Je lui ai dit trois fois, donc elle n'est plus ma femme. J'aimerais vous dire une chose. Chez les musulmans, ce n'est pas des moralités comme chez nous. Les familles ne sont pas n'importe comment, comme chez nous. Il y a beaucoup de respect dans les familles, normalement. Normalement. Et c'est triste que ça soit possible, dans leur religion, de divorcer une femme comme cela. Et le père l'a dit à Mourad, et Mourad a commencé à verser des larmes parce que sa femme y était précieuse, précieuse pour lui. Il aimait sa mère, il aimait ses frères et sœurs, il aimait son père. Et voilà ce qui est arrivé. Il est rentré chez lui dans son petit studio à Tunis. Il a ouvert la télévision et puis il a vu une femme qui parlait. Alors pour un musulman, c'est pas tout à fait ça. Hein? Une femme qui parlait et pire que ça, elle parlait de Jésus-Christ. C'est une femme qui s'appelle Joyce Meyer, pour ceux qui connaissent son nom. Il va y avoir une grande réunion avec Joyce Meyer à Nice d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et cette femme parlait de Jésus-Christ. Il a écouté. Pendant une heure et demie, il a écouté. Et à la fin, il s'est jeté par terre en versant des larmes. Il a accepté Jésus-Christ dans sa vie, suite à un message à la télévision. Et ça s'est passé énormément en Afrique du Nord. Maintenant, la télévision est bloquée et il n'y a plus d'émissions de ce genre-là. La seule fois que j'ai vu Billy Graham à la télévision, c'est quand j'étais en Afrique du Nord. Hein? Mais maintenant, plus. Mais il y a des gens qui se convertissent autrement. Alors, et il a dit, le dimanche après, il faut que j'aille au culte chrétien. Il est allé à la cathédrale catholique de Tunis et le prêtre à la porte a dit, mais on ne veut pas de vous ici, hein? Si vous venez là, on aurait des problèmes avec le gouvernement. Ne venez pas là. C'est encourageant, hein, au nouveau chrétien. Puis il parlait assez bien avec les gens pour que on lui dise, mais allez-y à l'église anglicane. Mais il n'a pas reçu le don de parler en langue, à ma connaissance. Il ne parle pas anglais, hein. Il parle bien l'arabe, classique et tunisien, et le français pas mal. Et il est allé à l'église anglicane, mais il comprenait que dalle, là. Rien du tout. Et puis, heureusement qu'il y avait quelqu'un qui parlait français qui disait, mais va à l'église internationale, à l'église française, parce que l'église anglicane à Tunis, c'est une église évangélique, merci Seigneur. Et l'église réformée à Tunis, ce n'est pas une église réformée, c'est une église évangélique formidable, où des gens se convertissent, des gens sont baptisés, où l'évangile est annoncé. Il est venu là, et son premier dimanche, c'était quand j'étais là pour prêcher. Dans une série. Il est venu me dire, mais est-ce que tu veux devenir mon père? J'ai personne pour me suivre maintenant. Alors depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant, Mourad, la photo est derrière, j'ai laissé 2 ou 3 exemplaires de la photo. J'aimerais vous demander de prier pour Mourad. Il ne fait pas partie d'une mission, parce que les missions, ça n'existe pas pour les gens du pays, c'est pas possible. Il dépend du Seigneur. Il n'a pas un rond qui vient par une mission ou par une œuvre comme cela. Si on reçoit des dons, on les passe par notre compte missionnaire et on les envoie. Alors si vous êtes poussé à donner, vous pouvez me donner, je vous empêche pas, j'ai deux poches et vous mettez pour Mourad, je l'enverrai volontiers le plus vite possible. Et le Seigneur le bénit. Mais j'aimerais juste vous dire ceci, on ne peut pas tout dire. Sa mère est au Seigneur maintenant. Vous voyez ça? Elle a décidé qu'elle n'avait plus besoin de voile. Elle a jeté la poubelle. Elle se réjouit en Jésus-Christ. Et si vous y allez, mais le culte, vous n'avez pas eu la scène ce matin, peut-être vous le faites toutes les 2 semaines, je ne sais pas comment vous le faites, mais souvent là-bas, c'est le couscous toutes les semaines. Hein? Toutes les semaines. Et après le couscous, on chante dans les cantiques de J'aime. puis après on prend la scène, puis après on parle du Seigneur, et puis on n'a pas de montre suisse comme vous tous ici, hein. Et puis peut-être 3 ou 4 heures après, alors on se quitte, les gens qui aiment le Seigneur. Mais j'aimerais vous laisser avec cette pensée du Père qui nous aime. L'amour de Christ nous étreint, nous lisons donc Paul dans 2 Corinthiens 5. L'amour de Christ nous a étreint comme un Père. Avoir un vrai Père. Nous avons un Père céleste. Et notre tâche cette semaine, c'est d'être tellement imprégné par sa présence que d'autres aient envie de le connaître. Parlez pas avant que la porte ne s'ouvre, mais soyez là pour répondre. Je vous raconte une petite histoire juste en terminant. Nous avons 2 petits-enfants, les 2 qui sont en Suisse, et la raison pour laquelle on est près de la frontière, ils viennent de l'Ukraine, sont adoptés. Et c'est tellement gentil dans les écoles. Victoria, c'est notre petite fille qui a maintenant 18 ans. Une de ses copines lui a dit, tu n'es pas vraiment la fille de ta mère, tu n'es qu'adoptée. C'est gentil de dire les choses comme ça, non? C'est gentil de dire les choses comme ça. Elle m'avait raconté ça. Et puis, j'ai dit, mais tu sais, chérie, tu es plus qu'adoptée, toi. On est allé te chercher parce qu'on te voulait. On te voulait. Et puis, je l'ai pris sur mes jambes. C'était il y a quelques années, peut-être 4 ans, 5 ans. Elle était dans mes bras. Et puis, elle me regarde. Elle me dit, mais, et vous deux? Vous êtes nos vrais grands-parents, hein? Vous êtes nos vrais grands-parents. Oh, ça m'a fait pleurer, ça. C'était fantastique d'avoir cette relation avec le Père comme cela. Mais c'est la relation que le Seigneur veut pour vous. Quelquefois, quand j'ai donné un cours sur le thème de la relation avec le Père à l'Eau Vive Provence, j'ai dit, mais ceux qui n'ont jamais été embrassés par leur Père, alors venez voir à la fin, je vous embrasse devant ma femme et devant tout le monde. Mais une vieille petite sœur suisse qui est venue, c'était le dernier soir d'un stage, elle m'a dit, je retourne à la maison demain matin. J'avais un père, mais il n'a jamais embrassé. Tu veux pas m'embrasser? Elle était vieille, elle avait à peu près mon âge, quoi, hein, vous voyez, à l'époque. Et puis, je la prends entre mes bras. Elle retourne à la maison, et dès qu'elle rentre dans la maison, elle tombe par terre, elle est partie auprès du Seigneur. C'est comme s'il s'attendait à être embrassé pour comprendre l'amour du Père. Alors j'aimerais que vous connaissiez ce matin l'amour du Père. On va prier ensemble dans un instant. Et s'il y en a qui ont, disons, un hiatus, un pont qui est coupé avec quelqu'un de leur famille, un enfant, un parent, est-ce que tu pourrais demander dans la prière silencieuse, Seigneur, aide-moi, viens réparer ce pont qui est cassé. Viens, Seigneur, toi-même, rétablis cette relation. Je ne peux plus rien faire, c'est vrai? Je vous comprends quand vous dites ça. Je ne peux plus rien faire. Alors dites-le au Seigneur. Dites-le au Seigneur. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui n'a jamais expérimenté l'amour d'un Père terrestre, j'aimerais que vous viviez, que tu vives, je te tutoie ce matin. J'aimerais que tu vives l'amour du Père céleste qui te dit qu'il t'aime. Il a tant aimé le monde, toi. Riez le mot le monde. Mettez Charlie si vous êtes Charlie. Mettez Janine si vous êtes Janine. Il a tant aimé Janine. Il a tant aimé Marie-Pierre. Il a tant aimé moi. Tant aimé. Et il prouve son amour. Il nous aime tellement. Prions au Seigneur.